sans détour.
On est maintenant avec l'autrice Franche Grondin qui a écrit le livre « Moi aussi, je mange, 30 recettes faciles adaptées pour les personnes souffrant de dysphagie ». Bonjour France.
Bonjour, comment allez-vous?
Ça va bien vous-même?
En pleine forme.
Madame Grondin, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la dysphagie?
En fait, la dysphagie est un problème de déglutition. C'est un problème à avaler. Donc, que la nourriture passe vers l'estomac. Dépendamment du degré de dysphagie, la nourriture va des poumons. Donc, le patient fait des ce qu'on appelle des pneumonies par aspiration. Et peut en mourir, évidemment.
Et qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un livre particulièrement sur la dysphagie?
C'est qu'en septembre 2022, je suis allée passer un examen à l'hôpital. Malheureusement pour moi, ça a mal tourné. Je me suis ramassée aux soins intensifs. Quand je me suis réveillée, j'avais une trachéotomie, donc un trou dans la gorge, branchée de partout, incapable de parler. Et par la suite, on a dû me faire une gastrostomie. Donc, un tube dans l'estomac. À cause de ma trachéo, j'ai moins d'espace pour avaler. Donc, je mange purée. Et j'ai aussi une alimentation idéale pour avoir le maximum de vitamines et de calories dans la journée. Donc, quand je suis sortie de l'hôpital 22 jours plus tard, ils m'ont remis une feuille 8,5 par 11 avec ce que j'avais le droit de manger et ce qui était interdit. Je me suis rendue à l'épicerie avec mon conjoint, direction section aliments bébés. Il n'y a pratiquement plus rien sur le marché. Dans le congelé, même chose. Il y a une compagnie, pas vraiment goûteux. Et moi, j'ai été chef à domicile pendant des années. Donc, j'ai fait, bon, il n'y a rien. Je vais m'en faire et on fait un livre de recettes pour les dysphagiques. Parce qu'au travers de mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait 3 millions de personnes au Canada qui étaient dysphagiques, dont 560 000 au Québec, pour diverses raisons. Soit qui sont atteints de SLA, Parkinson, sclérose en plaques, Alzheimer, prise de médicaments, et j'en passe. Parce que la dysphagie, c'est pas une maladie, c'est une condition suite à une maladie ou un accident.
Et vous dites d'ailleurs, et ça m'a surpris, mais en y réfléchissant, c'est pas si surprenant que ça. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas, en fait, qui souffrent de dysphagie, particulièrement des personnes âgées.
Exact. Les premiers signes sont, on s'étouffe, tout le monde s'étouffe un peu avec la nourriture. Sauf que là, à chaque bouchée, il tousse. Donc, c'est les premiers signes avant-coureur d'une dysphagie. Et là, ils font une pneumonie. Et ça va prendre du temps, mais qu'on se rende compte qu'on est dysphagique. Et par des radiographies spéciales, ils peuvent évaluer le patient pour savoir à quel niveau de dysphagie il est rendu.
Et à ce moment-là, il peut avoir donc un suivi, mais c'est là aussi, il y a un nerf de la guerre, c'est que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peu d'outils qui existaient là, pour ces personnes-là, pour les aider à manger à la fois convenablement, mais aussi avec plaisir.
Assurément. J'ai cherché, il n'y a pas de livre de recettes purées, ni en anglais, ni en français. J'ai fait pratiquement tout Internet au complet. Et pour... C'est pas si difficile d'adapter sa nourriture en purée. Ça prend quelques outils et la préparation de base est pratiquement toujours la même pour rendre la nourriture, ces recettes qu'on fait tous les jours, purées. Ça demande peu d'expérience. Et j'avais décidé d'écrire un livre de recettes facile pour que monsieur et madame tout le monde puissent réaliser ces recettes à la maison.
C'est entre autres ce qui est intéressant avec votre livre, en fait, c'est que, oui, d'un côté, vous donnez des idées de recettes qui peuvent être amusantes puis qui peuvent être goûteuses, mais également, vous aidez les gens à transformer leurs recettes préférées pour les adapter à leurs nouveaux besoins, hein, entre autres pour les gens qui font la dysphagie.
Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un dysphagique vit des frustrations tous les jours. Exemple, moi, chez moi, j'ouvre mon frigo ou mon garde-manger, il n'y a rien que je peux manger. Absolument rien. Je dois transformer ma nourriture en purée. Un dysphagique, interdiction restaurant. Donc, il n'y a plus de restaurant. Les voyages, tout inclus, on oublie ça. Ça devient compliqué pour aller manger chez la visite. Et à la télévision, on est inondé soit d'émissions culinaires ou de publicités d'alimentation. Pizza, ça, oui, nommez-les. On n'a que ça. Et un dysphagique regarde ça et fait comme, « Oh my God! » Ça a l'air bon, puis j'en mangerais. Parce que j'étais pas dysphagique avant. L'envie de manger une poutine, j'en ai encore envie, tu sais.
Oui, ça peut vous prendre, vous aussi, pendant une nuit, le goût de manger une poutine, puis c'est encore pire pour vous, parce qu'effectivement, là, c'est, bon, évidemment, ça, on peut toujours la transformer en purée, mais j'imagine que la sensation n'est pas la même.
Non. La poutine, tu peux pas la transformer en purée. Et je fais tout de même l'épicerie. Puis quand je passe dans les allées, je veux tout manger. Mais tu fais « Ah, ouais, tu peux pas. Ah, ouais, tu peux pas. Ah, tu peux pas. » Parce que mon mari n'est pas dysphagique. Donc, je fais cuire un poulet comme à l'habitude. Lui mange comme tout le monde. Moi, je me garde des portions avec du bouillon. Je transforme ça en purée. J'assaisonne. Je moule. Et je congèle. Donc, ça me fait des portions supplémentaires pour les autres journées. Et les moules, que ce soit ceux de Ricardo, Hubert, qui est au Canada, Purée Football, nous offre des moules qui ressemble à des poitrines de poulet, à des carottes. Donc, visuellement, parce qu'on mange avec les yeux, d'abord, c'est moins décourageant. Tu fais, ah, ça a l'air bon. Et après ça, là, ça vient les odeurs. Si ça sent bon, tu veux en manger. Puis trois, si ça goûte bon, bien, ta frustration est réduite. On va dire de 50% à peu près. Mais reste qu'on a toujours le goût et la tentation de manger une pointe de pizza. Sauf que si on le fait, on est à risque.
Oui, bien, clairement. Puis dans certains cas, en fait, ça pourrait vous faire mourir sur le coup, là.
Ah oui. Tu sais, parce que pneumonie après pneumonie, le système s'affaiblit, puis à un moment donné, ben, tu passes pas au travers.
Puis j'imagine aussi, je connais pas votre condition, mais j'imagine qu'il y a aussi des risques de s'étouffer de façon mortelle.
Oh oui, tout à fait. Moi-même, ma médication, pour vous donner une idée, je suis même pas capable d'avaler un comprimé Tylenol ou une aspirine pour enfant. Donc, il n'y a pas de glace, là.
Oui, donc pour la pizza, on y repassera. Mais on comprend quand même là, que ça peut améliorer la santé psychologique, là, ne serait-ce que d'avoir quelque chose qui est goûteux, quelque chose qui sent bon, quelque chose qui est bien présenté dans l'assiette.
Oui, tout à fait. J'en suis convaincue et j'ai eu du monde qui sont venus au lancement de livres, qui ont acheté le livre, qui sont dysphagiques et qui m'ont envoyé des témoignages. Ils ont retrouvé le coup de vivre. Ils ont espoir. Donc, mon but est atteint, parce que mon but était d'aider les gens comme moi, parce qu'il n'y a pas de ressources, malheureusement.
Et qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des gens qui vous remercient, qui vous donnent des commentaires d'appréciation, alors que vous, ça a été quand même une épreuve, vous vous êtes retrouvé du jour au lendemain avec cette condition-là, alors que vous n'y entendiez pas, mais vous avez pu changer ça en positif pour aider les gens. Qu'est-ce que ça vous fait de voir que vous avez eu un impact sur ces gens-là, puis que vous avez changé votre difficulté en quelque chose de positif?
Ah, écoute, ça me fait... J'ai l'impression de recevoir un Oscar, presque. Je me dis, ah, c'était le but ultime. J'ai réussi. Et j'ai pas terminé parce qu'il y a un deuxième tome qui sera à venir. J'ai aussi un site web qui est en construction, qui aura des nouvelles recettes tous les mois. Et j'ai l'intention de... faire des ateliers culinaires purés, soit dans les RPA, les milieux hospitaliers, CLSC, parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont visuels. Quand bien même que je leur donne un livre de recettes, s'ils ne voient pas la technique de leurs yeux, ils ne comprennent pas tout à fait. Donc, en faisant des ateliers culinaires, les gens dysphagiques ou les proches aidants pourront venir et assister à l'atelier pour voir exactement de quelle façon on s'y prend.
Puis évidemment, ça aide les gens à créer des contacts entre eux, puis à briser l'isolement, là, ce qui est aussi, j'imagine, quelque chose de positif là, avec les gens qui ont votre condition.
Oui, parce qu'il y a quand même... Je me souviens pas du nombre exact, je vais dire 1 million. C'est sûrement pas 1 million. Mais il y a une émission de télé qui a passé. Il y a un grand nombre de personnes âgées qui souffrent de malnutrition et de dénutrition à cause de la dysphagie. Ils s'empêchent de manger parce qu'ils peuvent pas avaler.
Évidemment, ça peut causer des problèmes au niveau de la santé.
La dépression s'installe.
Oui.
Donc, c'est évident que en milieu hospitalier, certains hôpitaux hospitaliers font beaucoup d'efforts pour offrir des repas purés. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est ce que j'ai vu.
Puis des fois, même si c'est en purée, c'est pas nécessairement goûteux, c'est pas nécessairement intéressant non plus. On sait de quoi ça a l'air de la bouffe d'hôpital, là. Donc, j'imagine qu'à purée doit ressembler un peu. Donc, effectivement, ça peut causer et des problèmes au niveau de la santé physique et des problèmes au niveau de la santé psychologique de ces gens-là. Et c'est une roue qui tourne, en fait, hein, pour créer plus de problèmes.
Là. Oui. Comme tu viens de le dire, pas juste au niveau physique, mais au niveau mental. Ils en font des dépressions, ils se laissent mourir carrément. T'sais.
Oui, ça c'est épouvantable.
Et là, en offrant un outil, parce que le livre est offert en anglais et en français, version numérique ou reliée, et pour l'instant, heureusement pour moi, malheureusement, tout ce que j'avais sur Amazon a été vendu. On est déjà en réimpression. On devrait être en mesure de réapprovisionner quelque part la semaine prochaine.
Et ça montre en fait qu'il y a un besoin. Vous avez visé juste.
Oui, j'ai visé juste. Et j'avais fait une étude de marché. Et tout le monde chez eux connaît quelqu'un de sa famille proche, loin, un voisin qui souffre de dysphagie. Quand on se met à questionner, on se rend compte que, ah, ben oui, je connais un tel, puis un tel, puis un tel. L'autre a eu un accident de voiture, fracture des mâchoires. Il a été obligé de manger purée pendant 6 mois. Ben, il mange quoi? Il n'y a rien.
Effectivement, on n'a pas vraiment d'alternative intéressante, mais avec votre livre, maintenant, j'ai l'impression que ça s'en vient. Et vous nous parliez d'un tome 2. Quand est-ce qu'on peut attendre un tome 2?
Ben, le tome 2 est présentement en écriture. Je suis en train de tester les recettes. Je pourrais te dire, là, je vais avancer début 2026. On devrait être bon. Parce que c'est beaucoup de travail.
Oui, c'est beaucoup de travail d'écrire un livre.
Autant au niveau photographie, adapter les textures ou la dysphagie, c'est essai-erreur. Non, ça, c'est pas bon. On recommence. Juste pour les pâtes alimentaires, dans le tome 1, ça m'a pris un an pour y arriver.
Oh, quand même. Hein? Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous travaillez avec une nutritionniste là, pour vous assurer que, justement, on a les nutriments nécessaires et qu'on puisse voir dans le livre, c'est écrit également, les nutriments et tout ce que contiennent les recettes. Là.
Oui, c'est ma nutritionniste, Hélène Bélisle à Tremblant. Et elle a bien accepté de participer à la création du livre. Parce qu'elle est en contact tous les jours avec des dysphagiques. Et elle témoignait, il n'y a rien. On n'a rien. Donc, là, on a quelque chose.
Oui, maintenant, avec votre livre, il y a quelque chose. Et le fait que les gens aiment le livre et le commandent et que vous êtes en rupture de stock, ça montre qu'il y a un besoin. Et vivement, le tome 2 là, pour répondre encore plus aux besoins. Puis tous les autres projets que vous avez également, qui sont des projets extrêmement intéressants là, pour aider les gens à se retrouver ensemble et à parler de dysphagie.
Oui, parce qu'en fait, la dysphagie, c'est méconnu. On en parle très peu ou pas. Le monde est plus ou moins au courant. Et on est quand même 3 millions au Canada. Et le nombre va augmenter avec la population vieillissante. Ça, assurément. T'sais? Et il y a autant des bébés, des enfants qui sont dysphagiques que des adultes. Moi, j'ai été étonnée de voir à quel point c'est varié d'âge en âge. Oh my God! Moi, je pensais qu'il y avait seulement des personnes âgées.
Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on entend parler beaucoup, mais comme je le disais, avec vos projets, on va en entendre parler plus dans les prochains mois, dans les prochaines années, donc c'est une bonne chose. Merci beaucoup d'avoir été là, Mme France Grondet. Vous êtes donc autrice du livre. Moi aussi, je mange 30 recettes faciles adaptées pour les personnes souffrant de dysphagie. Donc, si ça intéresse nos auditeurs, ils peuvent se procurer votre livre et dans les prochains mois, vous aurez d'autres projets à nous proposer.
Oui, je te remercie beaucoup et merci au public.
Merci beaucoup. Au revoir.
Bonne journée.